Comme les chants nous ont un petit peu préparés pour le texte de ce matin, eh bien, je vous propose, peut-être sans plus tarder, que nous puissions prendre ensemble le texte d'aujourd'hui, en Marc chapitre 14. Donc, nous sommes dans une série de prédications sur les chapitres 14 et 15 de l'Évangile selon Marc. Et nous parcourons progressivement, depuis déjà quelques semaines et jusqu'à Pâques, ces deux chapitres qui nous racontent les derniers instants de Jésus. Et nous sommes à présent au verset 32, Marc chapitre 14, les versets 32. Et nous lirons jusqu'au verset 52. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. » Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des douze, avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Maître !» Et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui était là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Je vous invite à la prière. Il ne nous est pas possible d'être insensible en lisant ce texte ce matin et en nous rendant compte de tout ce que Jésus a dû endurer. Il ne nous est pas possible de rester insensible face à la souffrance de celui qu'on appelle l'homme de douleur. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous t'en prions encore. Accorde-nous de pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Montre-nous, Seigneur, quelle est ta volonté. Et change-nous, Seigneur, là où c'est nécessaire. Nous te le demandons. Au nom de cet homme de douleur. Amen. Après le repas de la Pâque que Jésus a partagé avec ses disciples et lors duquel il a institué la scène, le groupe s'est rendu au Mont des Oliviers. Et c'est à ce moment que Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils allaient tous trébucher et que Pierre le renierait trois fois. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec Franz. Et par rapport à la prédiction de Jésus, nous voyons que c'est ainsi que se termine le texte de ce matin. tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 50. Quelle leçon devons-nous en tirer de ce texte? Quand nous lisons le récit de cet échec cuisant, cela ne nous rappelle-t-il pas quelqu'un? Et chacun peut répondre, moi. Oui, c'est à nous que je songe toutes les fois où nous avons chuté. Toutes les fois où nous avons cédé à la tentation au lieu de lui résister. Toutes les fois où nous avons choisi notre intérêt plutôt que celui de Jésus-Christ. Si l'échec des disciples est flagrant, à l'opposé, Jésus, saisi par des émotions intenses, fait face à son sort funeste et agit conformément à la volonté de son Père. Malgré nos échecs répétés, nous trouvons un vrai réconfort dans l'exemple de notre Seigneur qui n'a pas cédé à la tentation d'abandonner. C'est bien à Jésus que nous regardons ce matin pour retrouver du courage, pour retrouver de l'espoir, pour tenir ferme dans la foi. Et retenons pour cela trois verbes. Veiller, prier et ne pas abandonner. Et je voudrais commencer par veiller et prier. Ce sont les verbes que Jésus utilise et les paroles qu'il adresse à ses disciples. Avant d'en dire plus, revenons juste au début de notre texte, au verset 32. Nous sommes au Mont des Oliviers, à cet endroit appelé Gethsémané. C'est Jean, dans son évangile, qui parle d'un jardin. Et Jésus a choisi cet endroit pour le moment paisible, pour prier. Son heure approche et il ressent la nécessité de prier. Marc nous rapporte tout ce que Jésus ressent à ce moment précis. Versets 33 et 34. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Voir Jésus dans cet état nous rappelle combien il était humain. Nous pouvons imaginer que son cœur a commencé à battre plus vite à ce moment-là, que sa respiration est devenue plus haletante. Un peu à cette manière-là. Même si nous n'avons jamais connu de crise d'angoisse, nous pouvons aisément imaginer ce que Jésus était en train de vivre à ce moment-là, dans cette angoisse, dans ses palpitations, dans ce cœur qui bat vite. Luc raconte dans son récit que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Et en plus de l'angoisse, s'ajoute cette tristesse profonde, cet abattement dans l'âme. Certains commentateurs voient une allusion au psaume 42, quand le psalmiste dit au verset 7 « Mon âme est abattue en moi ». Ce qui attend Jésus est en effet redoutable. Et comme nous, dans les temps les plus difficiles, il a besoin de ses amis. Et c'est pourquoi il a demandé à Pierre, à Jacques et à Jean de rester à ses côtés et de veiller. Et la suite du texte nous dévoile un aspect formidable de la personne de Jésus. Je lis les versets 35 et 36. « Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père !» Tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette angoisse, cette tristesse jusqu'à la mort, nous sont expliquées ici. Jésus doit faire face à son heure qu'il demande à son Père d'éloigner, si cela était possible. Au verset 36, il est question de cette coupe que Jésus redoute de boire. Et dans l'Ancien Testament, la coupe est une image qui renvoie au jugement de Dieu. Je vous donne quelques exemples. Dans le psaume 75, verset 9, nous lisons « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueurs mêlées. Il en verse et tous les méchants de la terre boivent. Ils boivent la coupe jusqu'à la lie. Ésaïe 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe destinée à étourdir. Et encore Jérémie 25, verset 15. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Cette coupe, cette image de la coupe pleine de la colère de Dieu contre les pécheurs, Jésus sait qu'il est venu sur terre pour la boire, pour subir le jugement divin à la place des pécheurs. Face à cette perspective terrible, Jésus ne peut s'empêcher, dans son humanité, ne peut s'empêcher de demander à son Père, « Éloigne de moi cette coupe !» Et nous aurions fait exactement la même chose à sa place. Ne me fais pas subir le jugement, en plus pour des fautes que je n'ai pas commises. Ne sois pas en colère contre moi pour des fautes que je n'ai pas commises. S'il est possible que je puisse éviter ce châtiment que je ne mérite pas. S'il est possible qu'il y ait un autre moyen, un autre sacrifice, pas moi, éloigne de moi cette coupe. Ce n'est pas seulement l'idée de la mort qui l'effraie à ce moment-là, mais celle d'être puni comme un pécheur. Celle d'être puni en portant sur lui tous nos péchés. Mais Jésus sait qu'il doit passer par là pour que le plan de Dieu se réalise. Alors, au lieu de chercher un autre moyen, il se soumet à la volonté de son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus, qui a enseigné à ses disciples à prier « Que ta volonté soit faite », fait lui-même à présent cette demande. Et dans cette courte prière que Marc nous rapporte, nous voyons Jésus dans son identité de Fils de Dieu. Lui qui appelle son Abba, Père. Nous voyons le Fils parfaitement obéissant, qui se soumet à la volonté de son Père. Jésus n'a pas renoncé à sa mission alors que ce qu'il allait souffrir devenait de plus en plus concret. Jésus est vraiment allé jusqu'au bout. Et comme le dit l'apôtre Paul, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et Jésus a prié ainsi à trois reprises. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a eu une vraie lutte intérieure, un vrai combat intense, mais qui a abouti à l'obéissance, à l'acceptation de la volonté du Père. Jésus continue d'avoir confiance en son Père. À l'image du psalmiste dans le psaume 42 qui se termine ainsi. « Pourquoi être abattu mon âme ? Et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Espère en Dieu, encore dans ce moment. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait aussi allusion à ce combat intense. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété, notamment au moment de sa résurrection. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Au bout de la troisième fois, Jésus est prêt. Jésus accepte son sort. D'où ce qu'il dit au verset 41 de notre texte. « L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » C'est vrai, il avait déjà annoncé à ses disciples tout ce qui devait lui arriver, tout ce qu'il allait endurer et souffrir. Et à présent, il est prêt. et la suite montre qu'il ne va opposer aucune opposition, aucune résistance à ceux qui sont venus l'arrêter. Il est prêt. Alors que Jésus livre ce combat intense dans la prière et qu'il souhaitait du soutien de la part de ses disciples, il constate qu'il n'en est rien. Alors qu'il leur avait demandé de rester éveillés, ceux-ci se sont tout bonnement endormis. C'est vrai, il devait être tard à ce moment-là. Marc précise au verset 40 qu'ils avaient les paupières lourdes, comme cela peut nous arriver quand nous avons très envie de dormir. Alors que Jésus, lui, est en train de se préparer, ses disciples ne mesurent pas l'enjeu de ce qui est sur le point de se produire. Et Jésus connaît très bien ses disciples. C'est pourquoi il les avertit, verset 38. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Restez vigilants et priez. Ou encore dans d'autres traductions, veillez et priez. Les disciples aussi avaient un combat à mener à ce moment-là. Les disciples aussi devaient se préparer car l'épreuve n'allait pas tarder à les frapper. Certes, ils avaient de bonnes dispositions. Ils avaient tous dit à Jésus, comme Pierre, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Par nature, du fait qu'il est pécheur, l'être humain est vulnérable. Par nature, sans préparation, sans veiller, ni prier, l'être humain pécheur finit par tomber. Jésus les a avertis la première fois. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Pourtant, la deuxième et la troisième fois, Jésus les a retrouvés de nouveau endormis. Nous aussi, nous courons le risque de ressembler aux disciples. Combien de fois me suis-je montré présomptueux, pensant être suffisamment fort face à la tentation ? Mais il n'en était rien. Parce que je n'ai pas été vigilant et que je n'ai pas cherché le secours de Dieu, maintes fois, je suis tombé. Et par manque de vigilance, cela m'arrive encore. Oui, nous courons le risque de ressembler aux disciples. Mes amis, écoutons cette parole de Jésus. Veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de cette requête dans la prière du Notre Père. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et j'avais dit que par cette requête, Jésus nous montrait que nous n'étions pas forts. Seuls face à la tentation, livrés à nos seules ressources, nous sommes vulnérables. Et dès maintenant, soyons vigilants, soyons alertes et prions avant d'être tentés. Prions avant d'être tentés. Ce matin encore, je lisais un article qui utilisait cette image. Une nation qui est suffisamment prudente et sage ne va pas attendre que l'ennemi soit déjà à ses portes pour construire ses fortifications. Elle le fait en temps de paix, dans la prévision que des ennemis puissent attaquer. De même, un propriétaire va contracter une assurance avant qu'une catastrophe naturelle puisse arriver. Il n'attend pas au moment où la catastrophe est là pour contracter une assurance. Et je crois que ce sont des images qui nous rappellent dans quel état de vigilance nous devons nous trouver. Et ne nous faisons pas d'illusions à ce sujet. Dans la vie chrétienne, à aucun moment nous pouvons nous relâcher. À aucun moment nous pouvons dire « Je suis tranquille, le monde me laisse tranquille, le diable me laisse tranquille, tout va bien. » À aucun moment. Ne nous faisons pas d'illusions. Si Jésus a dit « Veillez et priez », c'est une parole qui est valable pour nous, en toutes circonstances, constamment. N'attendons pas d'être inondés ou que l'ennemi soit déjà à nos portes pour nous préparer. soyons aussi vigilants que ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. « Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » À coup sûr, toutes sortes de tentations surviendront durant la semaine qui vient. Je n'ai pas besoin d'être devin pour vous le dire. À coup sûr, toutes sortes de tentations surviendront durant la semaine qui vient. Et comment allons-nous nous y préparer? Comme les disciples, nous laissant aller à un doux sommeil, inconscient du danger? Ou bien comme Jésus, en veillant et en priant? Si Jésus même, l'homme parfait, avait besoin de prier à ce moment-là, combien plus nous, hommes et femmes imparfaits, nous en avons besoin. Je sais combien l'être humain est orgueilleux, plein de prétentions, se croyant debout. Et c'est à cet être humain que je m'adresse ce matin. Ta force n'est pas en toi. Reconnais plutôt que tu es faible et que tu as besoin de Dieu et de sa force face à la tentation. Tu as besoin de son esprit pour mettre fin à de mauvaises habitudes, pour mettre fin à de mauvaises pensées, pour mettre fin à de mauvais comportements. Durant cette semaine, reste vigilant et prie Dieu pour qu'il te vienne en aide. Que celui ou celle qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Veiller et prier, ce sont les deux premiers verbes que j'ai voulu examiner. Le troisième verbe, je vous l'avais déjà annoncé, ne pas abandonner. D'après un témoignage antique, on raconte que Polycarpe, qui a été enseigné par l'apôtre Jean, est mort martyr. Et voici ce qui se serait passé juste avant son martyr. Devant celui qui l'interroge et qui lui dit « Respecte ton grand âge et tout le reste qu'on a coutume de dire en pareil cas, jure par la fortune de César, change d'avis, dis « Abat les athées ». Alors peut-être pour préciser qu'est-ce qu'on veut dire par « Abat les athées », ici les athées dont il est question, ce sont les chrétiens de l'époque qui ne croyaient pas dans les dieux que vénéraient les Romains. Donc, abat les athées. Polycarpe dit ces mots, mais refusa de jurer. Alors, le proconsul insista et dit, « Jure et je te laisse aller. Maudis le Christ. » Polycarpe répondit, « Il y a 86 ans que je sers le Christ, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» L'exemple de Polycarpe est loin d'être isolé. La tradition nous rapporte que presque chaque disciple de Jésus présent dans notre texte a fini martyr. Or, au moment où Jésus est arrêté, tous l'ont lâchement abandonné. Comme le Seigneur l'avait annoncé au verset 27, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Et nous venons de voir pourquoi cela est arrivé. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu tenir parole quand ils disaient qu'ils étaient prêts à suivre Jésus jusqu'à la mort? En effet, ils n'avaient pas veillé, ils n'avaient pas prié, peut-être trop sûrs d'eux-mêmes. Alors quand Judas et toute une foule armée d'épées et de bâtons se sont présentés à eux, ils n'ont écouté que leur instinct de survie et se sont enfuis. À vrai dire, qui d'entre nous ferait le malin devant des gens qui tiennent des épées ou aujourd'hui des armes à feu? En fait, tout dans cette deuxième partie du texte, à partir du verset 43, qui raconte l'arrestation de Jésus, nous montre ce qu'un disciple n'est pas censé faire, trahir et abandonner. D'abord la trahison avec l'arrivée de Judas, l'un des douze. Depuis le verset 10 du même chapitre, le chapitre 14, nous savons que Judas est de mèche avec les autorités religieuses, les mêmes qui envoient désormais leurs gardes. Judas, qui est désigné comme celui qui trahit Jésus, le fait d'une manière ignoble. Alors qu'il faisait nuit, il fallait un signe pour reconnaître Jésus au milieu des autres. Avec sournoiserie, Judas désigne Jésus par cette salutation, « Maître !» et l'embrasse. Ce qui devait être un geste amical devient honteusement le geste de la trahison. Ça y est, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs, entre les mains de ceux qui le rejettent. Jésus est livré entre les mains de ses ennemis. Tout à l'heure, au début du culte, nous avons lu le psaume 18, où effectivement le psalmiste pouvait compter sur le secours de Dieu pour le délivrer de ses ennemis. Ici, Jésus ne sera pas secouru. Ici, il subit le sort que mérite tout pécheur qui se détourne de Dieu. Oui, vous le notez bien, il est livré entre les mains de ses ennemis. Et en quelque sorte, il aurait beau crier « Délivre-moi !» il ne serait pas délivré, parce que désormais, c'est son sort. Aucun secours n'est possible à ce moment-là. Même le téméraire qui utilise son épée contre le serviteur du grand prêtre et qui lui emporte l'oreille n'a fait aucune différence. Est-ce que vous avez remarqué ce détail ? Alors, on sait par l'apôtre Jean qu'il s'agit de Pierre et que c'est ce même Pierre qui n'a pas veillé ni prié. Et quoi qu'il ait tenté de faire pour essayer de défendre un petit peu son maître, ça n'a servi strictement à rien. Dans cette arrestation, Jésus a encore le temps de dire, versets 48 et 49, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Jésus souligne la disproportion entre cette délégation venue avec des armes, comme s'il était le pire des brigands, et ce qu'il faisait en réalité les jours précédents. Enseigner dans le temple. Bien entendu, les responsables religieux étaient bien tentés de l'arrêter à ce moment-là déjà, mais à cause de la foule, ce n'était jamais possible. Et ils ont dû recourir à la ruse, et cette fois-ci, l'occasion s'est concrétisée. Mais est-ce juste parce qu'ils se sont montrés plus rusés ? Jésus affirme, c'est afin que les Écritures soient accomplies. Oui, il est bien fait mention dans l'Ancien Testament que le serviteur de l'Éternel devait être compté parmi les criminels. C'est ce que nous lisons en Ésaïe 53, verset 12. Il devait être compté parmi les criminels. Cette parole commence à être réalisée au moment de l'arrestation de Jésus. Et une autre parole du prophète Zacharie, que j'ai rappelée tout à l'heure, se réalise aussi quand tous finissent par l'abandonner. Les brebis dispersées, ce sont ces disciples-là. Et Marc, c'est vrai, est le seul parmi les évangélistes à parler de ce jeune homme qui était dans le coin, finement vêtu, et qui a aussi fini par prendre la fuite, totalement nu. Cela peut nous paraître ridicule, mais dans ces circonstances, ce détail accentue la terrible réalité que tous ont abandonné Jésus, sans exception. Devons-nous en rester là, avec ce constat d'échec qui renvoie à notre propre fragilité ? Comme je le disais juste avant, tout ce passage nous rapporte ce qu'un disciple n'est pas censé faire. Un disciple de Jésus est censé le suivre et non pas l'abandonner. Jésus disait au chapitre 8 déjà de l'évangile de Marc, versets 34 et 35, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Suivre Jésus a un coût qui peut être celui de notre propre vie. Les disciples, au moment de l'arrestation de Jésus, n'étaient clairement pas prêts à payer ce prix, puisqu'ils se sont enfuis. Et nous, allons-nous abandonner Jésus quand les circonstances de notre vie deviennent difficiles, compliquées, douloureuses? Allons-nous tourner le dos à celui qui n'a jamais abandonné pour nous sauver? Nous ne sommes pas, dans notre contexte actuel, dans une situation extrême où il s'agit de choisir entre Jésus et notre propre vie. Et pourtant, face à la pression de la société qui veut nous détourner de Jésus, face à celle peut-être de nos proches qui se moquent de notre foi, face à la pensée constante que nous ne sommes vraiment pas à la hauteur en tant que chrétiens, chaque jour, il nous faut faire ce choix, ne pas abandonner. Ne pas abandonner. L'apôtre Paul emploie dans une de ses lettres le vocabulaire du combat. Combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Combat le bon combat. Nous n'avons pas, c'est vrai, une armée avec des épées et des bâtons en face de nous, mais soyons certains que le diable, comme un lion rugissant, fera tout pour nous intimider et pour nous faire tomber. Et pour nous enfoncer dans la culpabilité, et pour nous enlever la joie du salut. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas une armée devant nous, mais nous avons Satan. Et c'est déjà bien redoutable. Mes amis, ne nous croyons pas assez forts pour ne pas abandonner. Mais abandonnons-nous à Dieu, qui nous garde par sa puissance. Nous l'avons aussi chanté. Oui, c'est par sa puissance que nous pouvons être gardés. Comptons sur sa grâce pour qu'il nous pardonne et qu'il nous relève à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous faisons ce qu'un disciple n'est pas censé faire. Regardons à Jésus, qui dans notre texte s'est retrouvé seul, abandonné, livré entre les mains de ses ennemis, prêt à donner sa vie en rançon pour nous. Rappelons-nous une fois de plus que Jésus a emprunté ce chemin de douleur jusqu'à la croix et qu'il a payé pour nos échecs répétés, qu'il a payé pour chaque faute commise, qu'il a payé pour chaque moment de lâcheté. Alors même si aujourd'hui je ressemble encore à ces disciples qui ont pris la fuite, je veux compter sur la grâce de Dieu qui me transforme pour ressembler plutôt à Polycarpe et dire comme lui, « Il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» Si l'un ou l'une d'entre nous se sent découragé en ce moment par les circonstances de la vie, parce que la vie chrétienne n'est pas si simple, trouvez courage en regardant à votre Sauveur qui a enduré toutes les souffrances que nous pouvons imaginer et qui pourtant n'a pas lâché. Et cela correspond très exactement, et je citerai en conclusion ce passage dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Cela correspond à ce texte, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Telle est l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. pensez à celui qui a supporté une telle opposition de la part des hommes, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Que ces paroles puissent soutenir notre persévérance et nous encourager dans cette nouvelle semaine à veiller, à prier et à ne pas abandonner. Gardons les regards sur Jésus, notre héros, notre sauveur, celui qui n'a vraiment pas abandonné et qui a fait toute la volonté de Dieu jusqu'au bout pour pouvoir nous sauver. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Merci Père pour ta parole. Et merci parce que dans ce texte où tout semble tellement sombre, où nous voyons Jésus être livré entre les mains de ses ennemis, où nous voyons les disciples l'abandonner, pourtant nous pouvons en tirer une leçon qui nous encourage. Pourtant nous pouvons voir, Seigneur, qu'au contraire, tu nous appelles encore ce matin à ne pas abandonner, à tenir bon, à tenir ferme dans notre foi, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité, à pouvoir nous préparer avant que la tentation ne survienne, à veiller et à prier. Accorde-nous de redoubler de vigilance, particulièrement dans cette semaine. Accorde-nous, Seigneur, d'être lucides quant à notre propre fragilité et que nous puissions trouver le secours auprès de toi. Et merci parce que, comme tu le dis aussi dans ta parole, tu es fidèle pour nous secourir au moment opportun. Oui, nous pouvons vraiment compter sur toi pour ne pas lâcher ta main. Nous pouvons vraiment avoir cette confiance que nous sommes gardés par ta puissance. Alors s'il te plaît, Seigneur, encore dans cette semaine, accorde-nous de pouvoir veiller, prier et ne pas abandonner. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.